Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous partageons la lecture d'un ouvrage paru aux éditions Sarbacane, une maison d'édition que nous aimons beaucoup, à Radio Semnose, dans les librairies et ailleurs, et nous personnellement donc, parce qu'elle édite toujours avec grand soin ses ouvrages. Et le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui, allez, je le dis d'emblée, c'est certainement un de nos coups de cœur pour cette année. Il s'agit de la dernière parution de Cyril Bonin, qui, depuis un certain nombre de livres, réalise à la fois le scénario et le dessin. Et ici, pour aujourd'hui, ça s'appelle Karl. Alors, Cyril Bonin nous avait proposé auparavant des sujets comme La Belle Image, The Time Before. Il aime bien nous transporter dans des mondes qui sont proches de nous et lointains à la fois. Son tout dernier album, nous l'avions aussi apprécié, c'était Les Dames de Kimoko. Autour du temps qui passe, Thierry.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a des constantes dans son œuvre. C'est une réflexion sur le temps qui passe, les sentiments. Il a un rythme bien à lui également. Ses albums avancent d'une façon réfléchie, pensée, philosophique même, alors d'autant plus ce dernier. Et aussi une manière de situer dans le temps ces intrigues qui sont à la fois très datées et un peu décalées.
Oui, il le fait exprès. Hein.
Oui, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise parfaitement la couleur en tant qu'élément narratif. Ce qui donne, dans le meilleur des cas, et j'avais failli dire dans le meilleur des Karl, un album qui, effectivement, pour moi, peut-être sera le meilleur paru cette année. J'ose, en tout cas, parmi les meilleurs, j'en suis sûr.
Alors, pour préciser peut-être encore comment il nous perd, c'est vrai qu'on a l'impression, là, d'être dans les années 1960, et pourtant, la technologie est très évoluée.
Oui, parce que Karl, c'est un robot, un androïde extrêmement perfectionné, comme il en existera dans un futur plus ou moins proche. Et en même temps, on se croirait dans les années 1960. Côté un peu désuet, un peu daté, par les couleurs qui sont très soigneusement étudiées, comme si elles étaient un peu passées. Voilà, le temps a passé, et pourtant c'est un récit vraiment d'anticipation et de réflexion qui se situe dans un futur où le robot, alors pour les gens qui en ont les moyens, j'imagine que dans le futur il y aura toutes sortes de robots qui, selon les moyens de la personne concernée, seront plus ou moins perfectionnés. Là, on a affaire à un robot qui est particulièrement perfectionné, puisque c'est un riche banquier qui l'utilise comme sorte de majordome, et notamment comme chauffeur. Et c'est là que démarre l'intrigue, c'est que le robot, en conduisant la voiture, va avoir un accident dans lequel ce banquier meurt. Donc sa fille vient voir ce qu'il en est dans cette grande maison qu'elle a un peu désertée, parce que ses liens avec son père se sont très relâchés. Mais il y a surtout un procès. Alors c'est toujours très habile, les procès dans les récits, que ce soit au cinéma, en littérature ou au théâtre, parce qu'il y a argument contre argument, et enquête et rebondissement. Il y a un procès entre la société qui fabrique le robot et puis la société qui assurait le professeur, et savoir est-ce qu'il y a une défaillance et d'où vient-elle, parce qu'on sait que le robot a voulu éviter une biche qui traversait la route, donc il a fait un écart et il y a un accident, le robot s'en est sorti évidemment indemne, mais le professeur est mort. Et on lui demande au robot, pourquoi avez-vous évité cette biche au risque de tuer votre passager ou au moins de le blesser? Et il répond, parce qu'elle était belle. Pour sa beauté. Alors c'est une réponse à laquelle personne ne s'attendait. Et on va comprendre que ce robot, en fait, il a atteint un tel degré de conscience.
Vous alliez lâcher le mot, oui, effectivement.
Un tel degré de sophistication dans son fonctionnement qu'il a une réflexion surhumaine. Il a absorbé en fait toutes nos connaissances, comme le fait l'intelligence artificielle en ce moment. Ce qu'il en sort, c'est quelque chose qui est plus qu'humain. C'est pas surhumain, c'est plus qu'humain. Est-ce que la conscience peut naître d'une mécanique, etc., etc. Ça ouvre des abîmes philosophiques. Et je pense que c'est ce livre, en fait, qui paraît maintenant, parce que nous sommes au seuil d'un monde qui est gouverné par l'intelligence artificielle, et ce récit qu'on peut rattacher à des récits de grands auteurs de science-fiction de l'âge d'or, comme Isaac Asimov, évidemment, avec les trois lois de la robotique, et Philip K. Dick sur la réflexion sur la réalité. Ce récit, il paraît au moment où on va entrer dans un monde, grâce à l'intelligence artificielle notamment, où on ne saura plus qu'est-ce qui est vrai et est-ce que les machines qui ont absorbé toute la connaissance humaine seront capables de nous surpasser? Est-ce qu'elles seront l'avenir de l'homme, un homme augmenté, un homme asservi? Je pense que c'est un des meilleurs ouvrages qu'on puisse lire comme ouvrage de philosophie et de prospective.
Alors effectivement, ça soulève énormément de questions, des questions sur la conscience, des questions aussi sur la sensibilité. Est-ce qu'une machine peut être sensible? Le mot n'est pas employé dans le livre, mais on ressent cela parce que la réponse que vous mentionniez de Karl à cette fameuse question, pourquoi avoir évité la biche? Une réponse sensible, quand on considère quelque chose comme étant beau, c'est qu'on apprécie, c'est qu'on est capable, selon un certain nombre de critères très personnels, d'évaluer cela.
De ressentir une émotion.
Et du coup, la situation du procès va amener justement à débat sur un robot peut-il l'être conscient, peut-il par conséquent payer le prix de ses actes.
Comment punir une machine ?
Ici, on assiste à une machine qui, aussi bien formellement, j'aurais envie de dire, par rapport au dessin de Cyril Bonin, que par rapport à ce récit qui nous est conté, est presque plus humaine que les humains.
Oui, les humains, ce qu'on nous présente, ce sont eux qui raisonnent froidement, qui sont empêtrés dans leurs relations sociales standardisées, avec des arrière-pensées, des pudeurs mal placées, des élans réprimés, des mensonges. En fait, tout ce que le robot, logiquement, a intégré, et dont il ressort une sagesse, c'est terrible, hein, c'est le mot qui revient tout de suite à l'esprit, c'est une conscience. Une conscience, ça invite les personnages du livre et nous-mêmes à s'interroger même sur la sémantique de tous ces mots, conscience. C'est vraiment un abîme qu'ouvre ce livre sous des apparences très simples. Vous avez raison de dire qu'il a beaucoup réfléchi aussi à l'aspect du robot, parce que c'est à la fois une grande mécanique un peu impressionnante, mais on voit sur l'illustration de couverture, devant la jeune femme, la fille du professeur, il a un côté même très organique. Il a un poids un peu humain, une attitude légèrement voûtée.
Une ossature.
Comme s'il épousait les pensées, puis la forme des humains, la forme physique, la forme de pensée. C'est très impressionnant d'imaginer dans toutes ses conséquences un récit à ce point et le réaliser avec tellement de brio.
Et sur la page de garde, on voit la main du robot, si on peut parler de main, qui tend une fleur. Ces éléments organiques dans les ouvrages de Cyril Bonin jouent un rôle important aussi, particulièrement dans celui-ci.
Oui, c'est aussi l'occasion de... Je le dis parce que je ne sais pas si on y aura fait mention. Les protagonistes regardent un film, un des films préférés du professeur, et puis il est cité nulle part ce film. Il se trouve que je le connais, c'est Le fantôme de Mrs. Muir, The Ghost of Mrs. Muir, de Joseph Mankiewicz, avec Gene Tierney, Rex Harrison et George Saunders. Je n'en dirai pas plus parce que le film, et notamment sa fin, sont tellement en résonance avec l'histoire qui nous est proposée ici, que ça ajoute une dimension supplémentaire, symbolique et émotionnelle qui, moi, m'a terrassé parce que c'est un de mes films préférés.
Ça signifie qu'il faut à la fois lire le livre et voir le film, alors.
Oui, c'est sagesse que de lire ce livre et de voir ce film.
Ce que l'on pourrait relever, pour terminer, c'est une façon de parler, évidemment, parce que justement, c'est un livre qui ouvre sur toute une série de réflexions et de questionnements. Alors, je vais en rajouter une de questions un peu philosophiques. Hein. On aura bien plus que 4 heures pour développer. Enfin, pas à l'antenne, mais chacun de son côté. Qu'est-ce que la réalité ? Ça, c'est aussi une question abordée par ce récit.
Je citais Asimov pour les lois de la robotique, mais surtout Philip K. Dick, c'était un écrivain visionnaire, puisque c'était vraiment la question centrale de son œuvre. Alors, qu'est-ce que la réalité, on pourrait dire, depuis la caverne de Platon, c'est une question que tout le monde se pose. Mais avec les moyens technologiques, j'allais dire, qui s'offrent à nous. Est-ce qu'ils s'offrent à nous ou est-ce qu'ils nous emprisonnent ? Les moyens technologiques qui vont créer le monde de demain, ou d'après-demain, mais j'ai peur que ce soit déjà demain. Qu'est-ce qui va rester de l'humain qui va se dissoudre peut-être dans un infini technologique ? J'ai pensé aussi à 2001, l'Odyssée de l'espace à la fin.
D'ailleurs, le titre pourrait y faire penser,
oui,
hein,
oui,
Karl.
Oui, parce que c'était le nom de l'ordinateur. Dans 2001, et le reste est silence. Quoi.
Mais ça ouvre plein de pistes, plein de réflexions. Est-ce que, à l'inverse de la projection que l'on imagine plutôt sombre, la cohabitation, la collaboration, voire même entre les humains et les robots pourrait apporter des choses belles.
Je pense que c'est des hypothèses de ce livre. Si on arrive à comprendre ce qui est bénéfique pour nous et pour la société, pour l'homme en général, dans son futur, je l'espère.
Une démonstration, encore une fois, que la bande dessinée peut tout à fait nous conduire vers des réflexions approfondies.
Hein. Ah oui, moi, je pense que ça ouvre vraiment sur l'infini, la transcendance et beaucoup d'autres choses qui nous dépassent et qui étaient aussi évoquées à la fin de 2001, l'Odyssée d'espace. Peut-être pour moi une vision de l'au-delà, peut-être d'après la mort. C'est vous dire à quel point ce livre m'a marqué.
Beaucoup moins éthéré que 2001.
Hein, ah oui, alors tout à fait compréhensible.
Absolument. Karl de Cyril Bonin, vous avez compris que nous vous conseillons vivement cette lecture, mais plus que vivement, hein. On aurait presque envie d'y revenir plus tard, à la fin de l'année, pour vous dire, voilà, ça, il faut absolument acquérir ce livre, hein, bien sûr. Karl de Cyril Bonin, donc une parution Sarbacane. Merci beaucoup Thierry de nous avoir accompagnés dans cette lecture, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. À bientôt.